Myriam Sabet, de Alep à la maison d'Aleph.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Grandir en étant au parfum, c'est toute l'enfance de Myriam Sabet qui a grandi pas loin des roses de Damas, près de la fraîcheur des citronnades préparées par maman, et à deux pas de l'éclosion des pistaches pendant la pleine lune. La Syrie d'avant, la Syrie de toujours. C'est ce goût proustien que Myriam Sabet, qui a commencé dans la finance, poursuit avec sa maison Aleph, une maison de pâtisserie et d'épicerie parisienne dans laquelle produits du Levant et savoir-faire français convolent. Maison et palais d'enfance où s'apprivoisent fleurs d'oranger et noix du Périgord. Miam miam, Myriam Sabet, bonjour.
Bonjour.
J'ai fait un petit peu ma sauce dans cette présentation, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Est-ce qu'il faut, première question, est-ce qu'il faut être forcément gourmande pour se retrouver chef pâtissière ?
En tout cas, moi, dans mon cas, j'aurais pu ne pas être pâtissière, mais quand même être gourmande. En fait, je me rends compte aussi beaucoup avec le temps qu'il y a quand même une grosse part d'amour dans la cuisine et la pâtisserie. Les deux vont ensemble. Et il y a une grosse part de transmission de ce qu'on a envie de faire ressentir à ceux qui goûtent. Enfin, la nourriture n'est pas que pour se nourrir. C'est peut-être sa fonction première, mais pour moi, c'est pour prendre du plaisir et pour vivre un moment de gourmandise et d'émotion.
On peut être gourmand du souvenir. Avant que vous nous racontiez ce qui vous a amené sur ce chemin proustien et que nous goûtions ensemble certains de vos petits péchés mignons, musique. Musique, et c'est pas une musique venue de Syrie, mais plutôt d'Espagne, avec l'artiste Rosalia et son Malamante. Je connaissais pas, mais je craque totalement.
J'adore.
Pourquoi vous l'avez programmée ?
Ben en fait, j'aime beaucoup comment en fait elle arrive à faire connaître un public totalement jeune, pas du tout connecté au flamenco, pas du tout connecté à cette culture-là. Comment elle arrive à faire connaître et à vivre le duende, l'émotion du flamenco. Je trouve que son interprétation est juste ultra osée, ultra audacieuse, mais ça permet en fait de faire connaître et de faire vivre l'émotion du flamenco à des générations qui en sont complètement indifférentes.
Sabía que se rompía, está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, la que toma, malamente. Y yo, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, mira, mira,
cuanto
mira.
Más quiero cruzarlo.
Va,
más se mueve y tambalea. Malamente.
Así sí.
Malamente.
Da, da.
Mira. Malamente.
Más que toma.
Que malamente.
Y yo.
Ah, malamente. Malamente.
Aunque no te bonita. Pensarte
malamente,
así sí,
malamente.
Da, da.
Mira.
Je rêve que je suis en train de marcher vers un pont ou une passerelle, et que le trottoir, plus je veux le traverser, plus il bouge et chancelle. Merci Rosalia de ne pas décider entre hip-hop et flamenco. Nous, on va emprunter en sol majeur le pont-levis, celui qui sépare Myriam Sabet, notre invitée, de son royaume premier.
paraît que le fœtus s'imprègne des goûts de la mère. Quels sont vos goûts les plus anciens?
C'est sûr, ça doit être des goûts de sucré. Peut-être le moelle habillé, qui est une crème de lait à base de fleurs d'oranger, de pistache, ou aussi toutes les boissons fruitées, en fait, à base de... C'est un mélange de citron, de cédrat, de mandarine, beaucoup d'agrumes que l'on boit autant, que l'on mange autant en hiver à Alep, en Syrie, et que l'on boit l'été, puisqu'ils ont, ça avait été conservé sous forme de sirop au pic de la saison en hiver, et ils ont été conservés, transformés en sirop pour être bu au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire en plein été, quoi.
Et vous avez un plat d'enfant préféré ?
Ah oui, ça c'est sûr. J'ai deux plats, si je peux choisir deux plats.
Gourmande.
Bah oui, c'est sûr. Il y a le plat qui s'appelle mloukhiyé, qui veut dire le plat royal, et qui est une soupe chaude, mais qui se mange en été, puisque c'est à base d'une plante qui s'appelle la corette. Et ce plat est juste merveilleux par l'alchimie des goûts qui s'opère entre l'agneau, le poulet, cette préparation à base de corette, arrosée d'une vinaigrette avec oignon rouge et vinaigre rouge, du pain rôti, du pain grillé, du riz. C'est merveilleux ce plat. C'est ça, c'est
un plat
familial par définition. Et un autre plat aussi, c'est les feuilles de vigne chaudes, donc cuites longtemps dans un verre jus, donc un jus de raisin vert, de l'ail confit, des côtelettes d'agneau. C'est merveilleux, ça prend 4 jours à faire et 15 minutes à manger.
La cuisine, un lieu important, hein, on le sait bien. Et la rue en Syrie, comme je pense dans tous les pays du Machrek ou du Maghreb, la rue est elle-même un peu une extension de cette cuisine. Vous avez, vous, en souvenir, ces vendeurs de rue qui, heureusement, existent toujours. Et grâce à votre cher papa, Joseph, que j'embrasse en sol majeur, nous avons des échantillons de cette rue d'Alep. Ah, je crois qu'on sent déjà la chaleur, hein, écrasante dans ces voix de poètes ambulants. Ils sont un peu précurseurs de ce qu'on va avoir dans l'assiette. Parce que ces vendeurs de rue, je dis poètes, sous votre contrôle, hein, Myriam Sabès, ces vendeurs de rue sont un peu des poètes pour vous.
Ah oui, parce qu'en fait, pour chaque fruit et chaque légume, bien évidemment, tous les fruits et légumes qui sont vendus sont bien sûr de saison. Et donc les vendeurs déambulaient, là c'est plus le cas aujourd'hui, mais quand j'étais petite, déambulaient dans les rues des quartiers, à dos d'âne, et vantent les mérites de leurs marchandises avec des petits jeux de mots, des petits poèmes. Par exemple, le concombre est plus petit que les doigts d'un bébé. Et donc en fait, ça atteste de son goût. La tomate est tellement mûre qu'elle se boit comme un jus. La pastèque est pareil, tellement mûre que vous n'avez pas besoin d'un couteau pour la couper. Elle se coupe à même la main.
Ça manque à Paris, hein, ça. Elle est belle, Malétu, qu'elle est belle. Alors, dans votre souvenir, il n'y a sans doute pas que les vendeurs ambulants, Myriam Sabé. Vous êtes née en 77, donc à Alep, et vous allez y rester 10 ans. Est-ce que dans cette Syrie qui est dirigée à ce moment-là par Hafez el-Assad, vous ressentiez, il faut en parler une seconde, le climat de terreur qui y faisait régner? Est-ce que vous vous souvenez de ça, vous, enfant?
Non, je vivais comme une enfant, donc protégée, et c'est sûr qu'il y avait des vocabulaires qu'utilisaient nos parents pour qu'on les comprenne pas au téléphone, mais... Moi, ma vie et la vie de mes cousins, des enfants autour, étaient très douces et
loin des tensions.
On n'avait pas de jour, ouais, loin des tensions. Mmh. Oui.
Famille privilégiée parce que parents diplômés, artistes, on va peut-être en dire un mot. Est-ce que la confession religieuse rajoutait aussi à ce privilège ? On sait que ça peut jouer dans un pays comme la Syrie.
Actuellement, j'en sais rien puisque j'y habite plus. Mais en tout cas, à l'époque, à l'école, était dans une classe mixte. Il y avait musulmans, chrétiens. Il n'y avait pas de tension du tout entre les religions. Enfin, les gens s'invitaient, les uns et les autres. Bien sûr qu'il n'y avait pas de mariage interreligieux puisqu'il n'y avait pas de mariage civil. Et donc, forcément, le mariage entre religions passait par une conversion d'une religion à l'autre, puisque ce sont quand même deux religions qui n'aiment pas les mariages interreligieux. Et donc, vu que l'État ne le permettait pas, donc ça ne se faisait pas. Mais en dehors de ça, les invitations se faisaient. Même la génération de mes parents était encore plus mixée que notre génération à nous.
Enfance goûteuse, en tout cas, et voyageuse pour vous, Myriam. Vous avez beaucoup voyagé avec vos parents.
Oui, par le métier de mon père, qui est ingénieur agronome et donc qui était en mission dans les pays en développement, et notamment en Afrique de l'Ouest. J'ai pu passer mon adolescence au Niger et au Bénin.
Et vous en gardez quel souvenir ?
Très proche de la nature, même si on habitait dans les capitales, mais quand même, c'est des villes construites autour de la nature, donc dans deux natures complètement différentes. Au Niger, très désertique, on était aux portes du Ténéré, qui est le désert juste avant le Sahara. Et au Bénin, c'était pareil. On était carrément, la ville était au bord de la mer de l'Atlantique, donc très sauvage, des fruits et des légumes complètement différents de ce que j'ai pu connaître. En fait, la nostalgie du goût a commencé à cette période-là.
Alors, je ne sais pas si Cotonou peut être une de vos villes et pour laquelle vous éprouvez aussi une nostalgie. En tout cas, vous y avez passé votre bac français.
Exact, ouais. J'y suis retournée, puisque mes parents étaient toujours en poste, donc ça me permettait de fuir l'hiver canadien.
Oui, car vous avez fait le Canada après. Il faut vous suivre.
Hein. Oui. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir prendre des décisions ou faire mes choix assez librement, j'avoue. Et j'ai eu cette possibilité que mes parents m'ont donnée de pouvoir choisir l'endroit où je pouvais faire mes études. Et à l'époque, Paris me semblait encore trop difficile d'accès. Et grand bien m'a fait parce qu'en effet, Montréal est une ville tellement libre. Et en tout cas, pour une jeune adulte comme moi qui a vécu de 17 à 23 ans, c'était, je pense, super constructif pour moi de pouvoir être dans ce pays qui est très, très, super tolérant à tel point qu'on peut vraiment s'exprimer, en fait, exprimer qui on est ou même se construire. Et je crois que je me suis construit là-bas.
Alors là-bas, vous y avez fait aussi une école de commerce. D'abord un bachelor et puis un master en économie. Et puis finalement, après Montréal, les sirènes parisiennes vont finir par s'imposer. Vous qui rêvez à ce moment-là d'être dans la coopération internationale canadienne, on vous propose un CDI dans la finance à Paris. Là, on est fin 2000.
Ouais, là, c'est le gros paradoxe. C'est-à-dire que j'abandonne mon rêve de coopération qui allait se faire sous le drapeau canadien, mais retrouver un petit peu les raisons d'être de la vie de mon père, mais sous l'aspect développement économique dans les pays en développement. Et que j'avais eu la chance d'être prise par l'Agence canadienne pour le développement et donc être en mission en Afrique ou en Amérique latine, en pays de développement. Mais j'avoue que là, Paris m'a vraiment fait de l'œil. Et le choix s'est fait pas sur un choix de vie, mais sur un choix de ville, puisque le poste était à Ottawa. Et je ne sais pas si vous avez déjà été à Ottawa.
Jamais.
Autant j'adore Montréal, autant Ottawa, c'est la ville où il ne se passe rien du tout. C'est une capitale.
On embrasse Ottawa. Hein.
On adore Ottawa, mais Ottawa, c'est une ville politique. Enfin, c'est la capitale politique du Canada, mais il ne se passe absolument rien. Et à 23 ans, j'avais soif, au contraire. Pour le coup, une fois que je savais un petit peu qui j'étais, d'où je venais, quelles étaient mes origines, alors qu'on était justement les enfants d'expatriés, paradoxalement, ont peut-être une richesse de vie, mais aussi peuvent être perdus puisqu'ils habitent dans plusieurs pays et constamment doivent s'identifier par rapport au pays d'accueil qui n'est même pas un pays d'immigration. Donc Ottawa ne pouvait pas faire le poids face à Paris. Et donc j'ai dû plonger dans un job en finance pour pouvoir être à Paris.
Donc votre pays, c'est la finance aussi à ce moment-là, jusqu'à ce qu'une goutte, on va dire, d'irrationalité s'immisce. Vous, comment vous vous retrouvez, Myriam Sabé, un beau jour avec un tablier de pâtissière à faire des baklava?
En fait, donc en 2011, et d'ailleurs, je pense que l'année n'est pas anecdotique aussi.
Oui, année de la 2011, révolution en Syrie.
Oui, dans tous les pays arabes. Et donc 2011... ma fille naît et je retourne bosser après mon congé maternité. Et en fait, c'est là où beaucoup de choses se réveillent, sûrement, dans la transmission. Je ne me voyais pas enchaîner les journées en salle de marché, en trading, toute ma vie et même pas un jour de plus, quoi. Donc à ce moment-là, je décide de partir, de faire ma petite révolution, mais sans savoir vraiment ce que j'allais en faire.
Oui, mais il y a 1000 passions possibles. Pourquoi tout à coup la pâtisserie?
Parce que aujourd'hui, ça me semble être bien sûr une évidence, tellement j'étais petite, passionnée, intéressée et en train de réfléchir déjà à des mélanges de parfums, à des compositions de pâtisserie, puisque je me cachais... Quand à Alep, ma mère avait énormément de livres de recettes et je me cachais. Là, elle va sûrement l'entendre, donc je me cachais pour...
Il y a prescription, hein. Allons-y.
Je me cachais pour lire ces livres de recettes, mais que de pâtisserie, et à imaginer le goût. C'était surtout des bouquins de pâtisserie française. Et donc, je m'imaginais le goût que pouvaient avoir tous ces gâteaux cachés peut-être dans l'atelier d'artiste de ma mère. Donc oui, sûrement, c'était une envie depuis toujours. Et surtout aussi, ce qui m'a donné l'idée, c'est qu'un été, on emmène des pâtisseries chez des amis. Gênée de leur apporter ces pâtisseries que je ne trouvais pas du tout qualitatives. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire de la pâtisserie, pas du tout traditionnelle, mais d'inspiration du Levant à Paris, puisque ça n'existe pas et ça tombe bien, c'est exactement ce que tu aimes et vas-y. Donc c'est de là où est née Eyalla.
F comme fleur d'oranger.
Alors vous voilà en néo-pâtissière, Myriam Sabé, à la tête de la maison Aleph, donc qui se situe 20 rue de la Verrerie à Paris dans le 4e. Dès qu'on sera complètement déconfiné, je vous jure que je fonce jusqu'à vous. C'est dans
plaisir.
Le très chic Marais. Merci. Un petit mot d'abord de ce nom, maison Aleph, qui prête joliment à confusion.
Donc Aleph, je peux vous rassurer, je pense que 8 personnes sur 10 le prononcent Alep, mais en fait donc c'est A-L-E-P-H et c'est la première lettre commune de tous les alphabets de cette région si chère. Donc c'est la première lettre de l'alphabet hébreu, de l'alphabet arabe, de l'alphabet perse et de l'alphabet turc. Et l'envie était de créer une maison dans laquelle tous ces gens, toutes ces gastronomies qui ont tellement de choses en commun puissent se retrouver ou tout simplement dont je puisse m'en inspirer pour donner un nouveau langage, un nouvel alphabet plus parisien, plus actuel en m'inspirant de toutes ces premières lettres, tous ces alphabets-là. Ça semble peut-être très abstrait comme concept.
Non, c'est très joli. Une nouvelle grammaire culinaire, c'est très joli. Cette maison
mais sans
Aleph va donner.
En fait.
Non, mais ça sonne pas prétentieux du tout. Je donne juste l'image. C'est une petite échoppe avec deux tables, apparemment prêtes à la dégustation.
Avant le confinement, il n'y a plus de table.
Ah voilà. Ah voilà.
Mais...
il y a juste les doigts.
Mais juste, voilà.
Et puis quand on se plonge dans votre carte, c'est carrément le jardin des délices, hein. On lit par exemple galette au halva avec son feuilletage caramélisé au sésame blond, Les nids pâtissiers façon radaïf aux cheveux d'ange, surmontés d'une crème montée parfumée, aux divers parfums de fleurs d'oranger, mandarine et cannelle, grenade et chocolat noir, pistache et mastic, fromage blanc et rose de Damas, caramel au beurre salé et vanille bourbon. Waouh ! Quand vous parlez de vocabulaire, ça m'intéresse d'ailleurs. On va commencer juste sur la question de certains goûts qui peuvent paraître mystérieux. Par exemple, le mastic. Comment vous définiriez ce goût et qu'est-ce que vous en faites ?
Donc le mastic, c'est la sève du lentisque d'un arbre qui est issue de la grande famille des pistachiers et qui pousse dans le bassin méditerranéen. Et nous, la nôtre, elle vient de l'île de Chios en Grèce, qui est en plus une AOP, donc une appellation d'origine protégée. Et de cette manière, on est sûr de l'origine. C'est la résine de l'arbre. Donc c'est l'arbre, on peut même poétiquement appeler ça les larmes. Et on appelle d'ailleurs ça en arabe les larmes de cet arbre-là. Ça va donner deux choses. C'est un texturant, donc ça va surtout apporter, par exemple, l'élasticité si emblématique des glaces que l'on retrouve en Turquie, en Syrie, au Liban. Mais elle va donner un goût qui est assez herbacé, qui est un peu un goût de sapin, un goût très vert. Et ça se marie merveilleusement bien avec la pistache, avec la fleur d'oranger, avec l'amande et avec le lait. Et c'est un vrai goût emblématique du Levant. Et je vous rassure, je voulais dire 9 personnes sur 10 pensent que c'est du mastic pour boucher les coins, les joints.
mais en fait, chacun bricole sa vie comme il peut. Hein.
Voilà, mais à l'origine, c'est l'origine du mot, puisqu'en effet, le mastic est très élastique et voilà.
La fleur d'oranger, moi, je la mettrais souvent juste sur la salade de fruits, comme ça, c'est juste délicieux. Mais je sais que vous, justement, vous aimez bien détourner les parfums qui sont comme ça, un peu courus. Vous en faites quoi de cette fleur d'oranger, Myriam ?
Et ben là, par exemple, un dernier accord qu'on va lancer cette semaine, c'est un café froid, donc un café mocha d'Éthiopie, infusé à la fleur d'oranger. Et l'accord café-fleur d'oranger... À la base, j'aime beaucoup le café, mais pour tous ceux qui n'aiment pas le café, ça adoucit le café d'une manière incroyable, la fleur d'oranger. Et elle arrive à se marier avec le café, alors que le café est un goût quand même assez fort, assez présent. Aussi, avec la fraise, on a un sorbet fraise plein champ infusé à la fleur d'oranger. C'est juste... en fait, ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraîcheur.
Voilà, plein de... Les pouvoirs de la fleur d'oranger, waouh.
Ouais. Et à part vraiment son pouvoir premier qui est d'adoucir et de calmer les âmes avant de dormir le soir, c'est juste merveilleux. On n'a besoin d'aucune autre tisane quand on a de la fleur d'oranger.
Et je suppose, Myriam Sabek, que vous vous moquez aussi beaucoup des clichés justement qui entourent la pâtisserie orientale, dont on dit très souvent c'est trop sucré, il y a trop de miel.
Mais en fait, c'est pas
la parisienne et la touriste parisienne souhaitent la taille fine et la gourmandise en même temps.
Oui. Alors en vrai, c'est pas un cliché. En vrai, elle est très sucrée, la pâtisserie traditionnelle. Elle baigne dans le sirop, puisque bon, il y a aussi deux grandes différences entre la pâtisserie du Moyen-Orient et celle du Maghreb. Le Maghreb va sucrer avec du miel et le Moyen-Orient va sucrer avec du sirop de sucre.
Et alors, quel sort vous avez réservé aux baklava qui sont effectivement de façon légendaire, très sucrés, très mielleux ? Baklava que vous avez rebaptisé d'ailleurs, hein ?
Ouais, je les ai appelés les mille et une feuilles, parce qu'en fait, on a travaillé un feuilletage à base de pâte phyllo, donc qui est la pâte qui est utilisée traditionnellement dans les baklava, et je l'ai travaillé... différemment, c'est-à-dire au lieu de disposer toutes les feuilles, ensuite de mettre des pistaches concassées, de remettre des feuilles et de les baigner dans du beurre et du sirop, on a adopté plutôt les codes de la pâtisserie française qui calcule tout, qui pèse tout et pas suivre le dosage avec l'œil et la main, comme nous disent nos mères. Donc on a retravaillé un feuilletage feuille à feuille, donc où chaque feuille et beurré au beurre clarifié et beurré sucré pour avoir exactement le même dosage de beurre et de sucre par feuille et que ce dosage-là soit ce qu'on estime être le minimum nécessaire pour que ça soit gourmand. pour que la star, la vraie star, soit le contenu et non pas le beurre et le sucre. Donc si c'est un mille et une feuilles à la pistache, et ben j'ai le goût de la pistache en bouche et pas le goût du sucre qui, rappelons-le, est la matière première la moins chère en pâtisserie, c'est le sucre. Donc souvent les pâtissiers aussi en plus ont tendance à utiliser beaucoup de sucre pour avantager leur coût et mettre moins de matière première noble, quoi, comme la pistache, la noix ou l'amande.
Et est-ce que vous trouvez tous ces produits dont vous avez besoin nécessaires à cette pâtisserie métissée? Est-ce que vous les trouvez facilement à Paris?
Non, c'est une partie très importante de mon travail. Par exemple, là où j'ai eu beaucoup de difficultés, c'était sur un cake aux épices. J'ai voulu retrouver les dosages entre 7 épices qui composent un cake que faisait un gâteau de voyage que faisait ma grand-mère et qui décidait.
C'est quoi ces 7 épices?
Donc cannelle, clou de girofle. Mahlab, c'est le noyau de la cerise de Sainte-Lucie, qui est un cerisier sauvage et dont le noyau va apporter en même temps un petit peu d'amertume, mais en même temps aussi un goût d'amande. Là, c'est introuvable. Si vous voulez trouver quelque chose de qualité, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui revenait de Jérusalem qui me l'avait ramené. Il y a aussi des graines de fenouil, il y a de la muscade. De la graine de nigel, voilà, il y a 7 épices dans ce gâteau et j'ai mis un an, je pense, entre mes tantes, qui sont ma mère, ma tante, la cousine de ma mère, entre Montréal, Los Angeles et la Tunisie, pour les retrouver toutes les trois, pour qu'elles retrouvent exactement le dosage de ce gâteau tel que le faisait ma grand-mère, parce que bien évidemment, tout ça n'est pas du tout codifié, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas une recette écrite. Et elles ont tout appris.
Et voilà la transmission qui se fait grâce à vous, Myriam.
Grâce à mes tantes, ouais, ma mère et ma tante. Ouais.
Voilà. Alors, votre pâtisserie est métissée et ça veut dire que vous avez évidemment l'œil, j'imagine, sur certains chefs d'obédience occidentale, on peut dire comme ça. Je pense à Pierre Hermé dont vous m'avez parlé. Pierre Hermé, héritier de 4 générations de boulangers pâtissiers alsaciens, est surnommé le roi du macaron. Sauf que là, écoutez-le, il est branché vanille.
L'idée de l'infiniment vanille, c'était de composer un goût vanille qui est le mien. C'est-à-dire que moi, j'aime bien la vanille de Tahiti, mais je trouve qu'elle est un peu trop exubérante. J'aime bien la vanille Madagascar, mais il me manque un peu de matière. Et j'aime bien la vanille du Mexique. Donc, à partir de ces trois vanilles, j'ai composé un mélange à part égale de ces trois vanilles, et qui est le goût vanille de la maison Pierre Hermé Paris. C'est construit comme un parfum. Le parfum vanille que j'aime et que j'ai envie de partager. Et ce qui plaît, à mon avis, dans la tarte vanille, c'est le fait qu'on est dans un cocon douillet et qu'on a plein de parfums. Il y a énormément de parfums dans cette tarte. On voit le biscuit, il y a la ganache sous le biscuit, la ganache un peu au-dessus, et on a un goût de vanille. Donc il y a des densités et des textures différentes. Là aussi, on revoit bien toutes les crèmes de mascarpone, la ganache, le biscuit, et encore en dessous la ganache et la pâte. Qui est-ce qui va manger une tarte infinie en vanille ce soir?
Dans la marmite en sol majeur, la voix de Pierre Hermé, qui a des bonnes joues, hein, ça je vous le confirme, et qui s'amuse bien avec la vanille. En quoi ce roi du macaron, un peu Picasso sur les bords dans sa manière d'agrémenter la cuisine, vous inspire-vous pour votre pâtisserie levantine, Myriam Sabet?
Alors en fait, c'est ses livres surtout. C'est des encyclopédies de recettes, mais c'est pas les recettes qui m'intéressent. En fait, c'est les associations de parfums ou de saveurs ou de construction de gâteaux qu'il fait, qu'il imagine.
Mais par exemple ?
Par exemple, j'ai vu à base de fraises et de vinaigre balsamique. Et ben, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais j'ai très envie de travailler du coup la fraise, mais avec la mélasse de grenade. En fait, c'est toujours en regardant ce que peuvent faire d'autres, ça me permet de me mettre moins dans mon univers à moi, avec les codes de mon univers, et d'essayer d'imaginer quelle inspiration ça me donne pour utiliser les outils et les parfums et les épices que j'ai en main dans le Levant, ou même dont je peux m'inspirer en France, et comment est-ce que je peux jouer avec ces arômes, ces parfums, ces épices.
Vous parlez, Myriam, d'univers et de codes. Au départ, vous avez une inspiration de la cuisine maternelle, du ventre maternel qui vient du Levant. Et ensuite, il y a une espèce de rencontre avec une codification plus occidentale. Vous parliez du dosage, effectivement, qui existe ouais. dans la cuisine occidentale. C'est une balance entre ces deux fonctionnements-là, l'improvisation d'un côté et la codification de l'autre.
Oui, et en sachant que pour moi, ce dont je m'inspire de la pâtisserie française n'est pas que le dosage ou la précision, ça l'est. La précision, la sobriété, la régularité, oui, ça je l'ai, je m'en inspire de la pâtisserie française. Mais par exemple, typiquement pour la rentrée, j'ai envie de travailler typiquement une tarte tatin à base de coing. Le coing, c'est très méditerranéen, avec une grande sémantique en plus religieuse dans les trois religions, surtout dans la religion juive.
Et en plus, et tout ça, c'est important pour vous ?
Ouais, c'est très important. Parce que c'est les origines du Levant. Le Levant, c'est une région gastronomique, culturelle, architecturale, qui a vu tous ces peuples-là, que ce soit les trois religions, que ce soit les Perses, que ce soit la route de la soie, des épices, même si bien évidemment j'ai rien connu de tout ça, mais c'est tellement encore visible, présent, imprégné dans la culture de toute cette région que je m'en fiche des frontières. Et ce qui m'importe, c'est un esprit levantin, et où il y a autant de points communs dans la gastronomie à Istanbul, à Jérusalem, à Beyrouth, à Damas, à Alep, à Amman, avec des points différents bien sûr, mais il y a beaucoup de choses communes. Et voilà, c'est mon côté un peu romanesque.
Donc votre main est très tentaculaire, hein, dans toutes ces régions-là, elle se balade.
Ouais, j'aimerais bien un jour d'ailleurs visiter l'Iran, parce que je pense qu'aussi il doit y avoir énormément d'inspiration. Il y a énormément d'inspiration perse dans la cuisine du Levant, et j'aimerais bien vivre ces émotions culinaires en Iran, quoi.
La maison d'Aleph est un hommage finalement à cette gastronomie syrienne qui a une longue histoire. Et c'est aussi un hommage aussi au savoir-faire de ces femmes qui ont été les femmes de votre vie, votre mère, vos tantes, votre grand-mère, vos grands-mères. Est-ce que vous essayez vous-même de transmettre, de préserver les méthodes de gastronomie ou de méthodes de conservation de la nourriture que vous avez pu observer auprès d'elles?
Par exemple, je suis très heureuse de proposer à la boutique des sirops de la même manière que le sirop de rose. Donc c'est une boisson rafraîchissante qui est faite à base d'eau de source et de pétales de rose de Damas. Pareil pour le citron. J'importe chaque année au mois de mars, avril, selon la période de maturité, des citrons d'Amalfi, d'Italie ou de Sicile, parce que je trouve que c'est les citrons les plus proches en goût, en acidité, amertume, longueur en bouche, que les citrons de la Méditerranée orientale. Pareil pour la mûre du Liban. J'aimerais bien faire du pamplemousse de Jaffa l'année prochaine, qui est ce pamplemousse jaune, pomelo, pareil, très typique de la région. Donc là, je suis très contente de pouvoir répliquer ces traditions-là. Voilà.
Je vois d'ici notre réalisatrice Laura Pinto qui est en train de se pourlécher à l'idée de se retrouver. On note bien cette adresse, la maison d'Aleph, c'est comme un jardin des délices, hein, je le disais vraiment, 20 rue de la Verrée dans le 4e.
Hôtel de ville, métro Hôtel de ville. Avec grand plaisir.
Get it done, get it.
C'est idéal hein, pour faire glisser en sol majeur les baklavas de notre hier et de notre tout à l'heure. Yasmine Hamdan. Pourquoi cette belle chanteuse libanaise? Ça nous rappelle des souvenirs en sol majeur d'ailleurs. Myriam Sabet.
Je pense que j'ai rayé le CD tellement je l'ai écouté. J'ai trouvé que la collaboration, donc c'est un album réalisé, produit par Mirwais. Mirwais est celui qui est aussi derrière un album de Madonna, un de ses meilleurs albums d'ailleurs, je trouve.
Music.
Je trouve que c'est la première fois qu'on faisait une musique actuelle, contemporaine, pas stéréotypée. Et c'était de la techno chantée en fait elle était juste chantée en arabe, mais c'était de la techno. C'est une ode à la modernité chantée en arabe, très réussie.
Myriam, une odeur de jasmin, des pistaches sur la table ou une feuille de menthe trempant dans un verre de thé. Tiens, je vous emmène dans une de nos terrasses en Méditerranée.
M comme mal du pays.
Myriam, est-ce que vous faites, vous, cette association entre tablée méditerranéenne et le mal du pays?
Je pense que même dans les soirées que je faisais à Montréal, ou dans les dîners, dans mes invitations, j'aime pas les invitations à 4, à 6. J'ai toujours essayé d'inviter beaucoup de monde, qu'on se retrouve, qu'on soit nombreux à table, que ça claque des verres, que ça se lève, ça s'assoit, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait toutes les générations. Je pense que ça, c'est...
La tablée familiale.
Oui, familiale et de copains aussi, l'autre famille. Que ça soit la famille de naissance ou les amis. Et donc ça, c'est des moments de partage, de convivialité, d'amour. Et même si parfois ça se passe mal, et ben c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et c'est une vie au code un petit peu plus peut-être méditerranéen, mais que j'ai pu retrouver à Montréal dans des environnements familiaux et que j'essaie de retrouver ici à Paris dès que j'en ai l'occasion.
On n'a pas oublié ce que vous nous racontiez en début d'émission, cette enfance voyageuse qui a été la vôtre entre la Syrie natale et puis les différentes terres d'accueil qui ont été les vôtres, en Afrique de l'Ouest notamment, mais aussi Paris, puis après le Canada. Cette maison d'Aleph que vous ancrez à Paris, c'est une manière de vous inscrire dans le monde, non ?
Oui, sûrement. Mais
est-ce que c'est aussi une manière, Myriam, de dire que la Syrie est toujours vivante ?
Bah, elle est toujours vivante. Hein. Et je crois savoir que même pendant les pires périodes de la guerre, et même aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui la situation est encore plus compliquée, puisqu'il n'y a plus, on ne craint plus pour sa vie, certes, mais les conditions économiques sont affreuses. Tout a encore plus augmenté que pendant. Moi, j'étais choquée hein, quand j'ai reçu les enregistrements, justement, qui dataient d'hier ou d'avant-hier. Le prix de la pièce de pastèque a fait x20 depuis 6 ans seulement. Donc la situation économique est encore plus compliquée aujourd'hui, mais ça reste un peuple qui reste dans le goût, même avec des moyens économiques limités, mais qui va aller chercher son pain chez tel boulanger parce qu'il est fait de telle manière. Mais oui, c'est aussi typiquement quand les boîtes, le packaging de la maison, on a repris en fait les motifs du sol de la mosquée des Omeyyades, qui est d'une modernité incroyable, alors que ça a été fait au début, je crois, du XIe siècle. Et c'est des packagings très contemporains. Donc oui, non, bien sûr qu'elle n'est pas morte. Ce pays n'est pas mort.
À propos de pays, Myriam Sabet, pourquoi vous êtes fâchée avec la notion de pays ?
Parce que, en fait, je trouve que c'est le moyen le plus commun qu'ont les autres de catégoriser et surtout peut-être de rejeter d'autres humains. Pour parler d'une anecdote, je pense personnelle, en étant avec un passeport syrien, nous on a passé des périodes où on était complètement, alors qu'on n'a bien sûr aucun passé, ni terroriste, ni islamiste, complètement rejeté et sans l'autorisation de rentrer en France, même pour du tourisme.
Récemment ?
Parce que non, je parle des années 80. Alors qu'ensuite, une fois que j'ai accédé à la nationalité française ou même canadienne, tout devient plus simple, alors que moi, je n'ai pas changé pour autant. Mais pourtant, ma vie s'est énormément simplifiée. C'est pour ça que je n'aime pas non plus qu'on parle... C'est une pâtisserie, j'insiste vraiment sur le fait que j'ai envie de parler de Levant et pas de pays. Ce n'est pas une pâtisserie syrienne. Je ne rejette en rien mes origines, loin de là. Mais ce n'est pas une pâtisserie avec une nationalité.
Comment transmettre et comment avancer, peut-être en goûtant, en observant, en lisant, dans ce monde bombardé, pandémique, troublé, comment faire ? Il y a une romancière japonaise vivant à Paris et venue en sol majeur peu de temps après le tsunami de Tokyo, une romancière que vous aimez bien, que vous lisez, et qui s'exprimait à notre micro sur le mot Hiroshima, Ryoko Sekiguchi.
En fait, Hiroshima et Nagasaki, quand je prononce le mot Hiroshima, je pense pas forcément à la catastrophe. Mais quand je prononce, quand j'entends le mot Hiroshima à la française, sans H, le mot garde plus la marque de catastrophe, parce que en France, on ne prononce ce mot que pour évoquer la catastrophe.
C'est étonnant, ça. Donc, vous avez intégré la mémoire française de cette catastrophe.
Oui. C'est-à-dire que oui. Parce que Hiroshima, on prononce au Japon tous les jours, dans la vie quotidienne aussi. Donc, il y a une image de la vie quotidienne qui recouvre la catastrophe.
La romancière Ryoko Sekiguchi que vous aimez lire, hein, Myriam Sabet, vous me confirmez en sol majeur ?
Oui, j'adore, que j'aime lire, avec qui j'adore échanger, qui vient souvent à la pâtisserie. Elle a une intelligence émotionnelle incroyable, cette femme, et elle réussit en fait, là avec l'exemple qu'elle vient de vous donner d'Hiroshima, elle arrive à exprimer et à comprendre plusieurs cultures dans leur propre élément. Donc elle va totalement réussir à vous expliquer une notion dans la culture française, la même dans la culture japonaise. Et aussi récemment, elle a fait plusieurs voyages au Moyen-Orient et au Liban, et elle va réussir à vous interpréter une notion dans un contexte culturel moyen-oriental, libanais, incroyable.
Et vous avez été touchée, vous, par un de ses romans en particulier, Nagori, en japonais, qui veut dire... nostalgie de la séparation.
En fait, c'est la nostalgie de la saison qui vient de passer. Alors, je ne sais pas si c'est aussi la nostalgie de la séparation, mais c'est la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Et si je comprends bien, en fait, c'est un livre qui traite de la saisonnalité, mais en fait, comment on sait qu'on passe d'une saison à l'autre ? C'est en quittant la saison qui vient de passer. Donc, typiquement, dans ce confinement, on a vu passer le printemps et on rentre maintenant dans l'été.
C'est bien qu'on finisse l'émission avec un livre à la main comme ça, parce qu'on sait depuis Proust, depuis Flaubert, et en vous écoutant, Myriam Sabet, que la cuisine plonge ses racines dans la religion, dans l'histoire, dans la littérature. On pourrait dire de votre maison Aleph qu'on y mange bien et qu'on y mange poétique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Et vous savez, les plus belles récompenses que j'ai quand je suis à la boutique, c'est quand des gens avec des histoires complètement différentes, des Américains de Brooklyn, descendants de juifs d'Alep, qui viennent et qui sont émus aux larmes. Donc, les plus belles émotions, et moi qui m'emmène jusqu'aux larmes en boutique en échangeant avec des clients, c'est quand on parle d'émotions qu'ils ont pu ressentir en mangeant et en goûtant des pâtisseries ou des plats salés. Et c'est là où je me dis, ok, c'est compliqué, ok, c'est dur, ok, c'est fatigant. Mais c'est beau, quoi. C'est fou, en fait, l'alimentation, c'est vraiment pas se nourrir, c'est vivre et ressentir des émotions. Et ça, c'est la plus belle des récompenses.
Si vous cherchez une maison, ne cherchez plus. Elle se trouve donc à Paris dans le 4e. On mettra l'adresse sur notre page en sol majeur. Merci Myriam Sabet pour ce voyage. Qu'est-ce qu'on fait pour se quitter? Est-ce qu'on se dit au revoir avec Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, ou bien avec Barbara, dis quand reviendras-tu?
Allez, Leonard Cohen, pour sa poésie, je l'ai découvert à Montréal. Je le croisais même parfois dans le quartier du Plateau dans lequel il habitait. Et c'était aussi sur cette chanson que j'ai rencontré mon mari. Donc allons-y.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children.
En sol majeur, une émission que vous pouvez retrouver à toute heure en podcast sur Pure Radio. Vous pouvez même nous laisser un petit commentaire, on adore ça. Ou bien en direct, chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain pour une émission spéciale autour des Chibani. À demain.
Dance me to the end.